6h58, très bon réveil, très bon début de journée. Vous êtes avec Mathieu Béliard pour le 7-9, je vous dis à demain.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à toutes et à tous. Lundi 3 mai 2021, soyez les bienvenus sur Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer. Et si on parle de premier jour du déconfinement ce matin, l'actualité aussi se déconfine et il y a d'autres sujets que le Covid dont on vous parle et qui font la une. La loi climat votée demain par exemple. Nordal-Lelandais jugé pour la première fois aux assises. Un bras de fer épique aux États-Unis entre Apple et l'éditeur du jeu vidéo Fortnite. Du sport ce matin, du rugby avec deux clubs français en finale de Coupe d'Europe, du football aussi avec la course au titre plus serrée que jamais. C'est ça aussi la vie qui reprend et on se posera même la question du masque en extérieur ce matin. La vie au rythme du virus qui peut changer un petit peu. Et l'actualité politique qui se déconfine, c'est ce séisme. À droite, Renaud Muselier qui accueille La République En Marche sur sa liste en région PACA, comme nous vous l'annoncions d'ailleurs sur Europe 1 dès mercredi dernier. Le parti qui lui retire l'investiture, qui menace de présenter une nouvelle liste. Le RN qui se frotte les mains et qui y voit des masques tomber. On va en parler dans nos journaux, à moins de 2 mois des régionales, dans l'édito politique de Nicolas Bétou. Et puis l'invité de Sonia Mabrouk aujourd'hui, c'est Éric Ciotti qui parle lui de coups de poignard dans le dos. Voilà quelques éléments du programme ce matin à 6h59. Nous accueillons à présent Laurent Cabrol pour la météo. Bonjour Laurent.
Salut Mathieu. Autre élément dans notre programme, il fait moins 3 degrés à Beauvais en ce moment, il en fait plus 6 à Paris et au passage 4 à Lille et Lyon. Cela veut dire qu'il fait froid, mais cela ne veut pas dire que la journée sera froide. Au contraire, c'est une journée de transition avant une semaine qui s'annonce dans l'ensemble pas très folichonne. Eh bien, cette journée de lundi sera pas mal du tout. Avec seule la Bretagne, la Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais sous des nuages venus de la Manche et qui seront là progressivement, de plus en plus nuageux, de plus en plus voilés dans ces contrées et de la pluie ce soir. Sur Paris, sur Champagne-Ardenne, la Vallée de la Loire, ce sera également un peu voilé, mais pas de pluie, pas d'intempéries. Et sur toutes les autres régions de France, le soleil sera présent. Les températures maximales entre 16 et 19 degrés. Il en fera 18 dans la capitale, ça monte, 18 à Lyon, 19 à Nice, et pour les plus fraîches, 14 à La Rochelle. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, mon cher Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. On écoute le monde changer. Il est 7h.
C'est dans notre ADN, on s'est engagé en 2017 derrière l'idée du dépassement politique. Mais c'est aussi une nouvelle étape de clarification au niveau national pour les Républicains.
Le dépassement des clivages politiques revendiqué hier sur Europe 1 par le porte-parole du gouvernement, l'Alliance des Républicains et de La République En Marche en PACA, fait une nouvelle fois vaciller la droite. 8 jours d'audience, le procès de Nordal-Lelandais devant les assises de Savoie, l'ancien militaire jugé pour le meurtre du caporal noyé. On va retrouver nos envoyés spéciaux à Chambéry. Dans ce journal aussi, la campagne de vaccination qui s'élargit, injection possible dès 18 ans en Martinique. Et puis un procès qui pourrait remettre en cause le fonctionnement même du géant Apple. Il s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis. Juste après ce journal, l'éclairage écho de Nicolas Barret, juste avant le regard international, Vincent Hervouette.
Les négociations sur le nucléaire iranien s'enlisent à Vienne, mais Téhéran écrase sur le terrain les Américains, les Saoudiens et les Européens.
L'édito sport de Virginie Fulpin.
Stade Rochelet, Stade Toulousain en finale de la Coupe d'Europe de rugby à Twickenham et avec du public. Vous voyez que le monde d'après offre de belles promesses.
Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. 20% à la dernière présidentielle, mais combien l'an prochain? C'est bien l'avenir et le poids politique des Républicains qui sont en jeu après l'alliance conclue ce week-end en PACA entre LR et La République En Marche pour les régionales de juin prochain.
Le sortant Renaud Muselier rejoint sur sa liste par la candidate de la majorité, la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Une alliance que vous nous annonciez dès la semaine dernière. Michaël Darman, bonjour.
Bonjour.
Alliance confirmée donc hier dans le journal du dimanche par le Premier ministre lui-même, mais c'est bien Emmanuel Macron qui est à la manœuvre. Michael, pourquoi ?
Parce que le projet politique qu'il met en place dès 2017, derrière cette façade du en même temps, c'est bien fracturer la droite pour récupérer ses électeurs en vue de 2022. C'est le carburant électoral d'Emmanuel Macron pour être réélu. C'est pour ça qu'il a placé des personnalités de droite à des postes clés, dont Matignon avec Édouard Philippe. À l'époque, l'ancien Premier ministre avait prévenu « La recomposition politique se poursuivra jusqu'en 2022 ». Il parlait de la poutre qui travaille. Et là, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui a fait travailler la poutre en négociant directement avec certains élus du Sud, comme Hubert Falco de Toulon, Christian Estrosi et bien sûr Renaud Muselier. Pour les dernières manœuvres, Thierry Solaire et Jean Castex, le Premier ministre, chef de la majorité et issu de la droite.
Et la droite qui se retrouve donc prise en étau entre La République En Marche et le Rassemblement National. En fait, Emmanuel Macron cherche à appuyer là où ça fait mal et depuis longtemps.
Et oui, parce qu'il veut obliger la droite à cette clarification. Cette fracture existe, on s'en souvient, hein, depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle, hein, lorsque des responsables de LR n'ont pas voulu choisir entre Le Pen et Macron. Et ce dilemme remonte loin dans le temps. En se servant du parti lepéniste pour dynamiter la droite, Emmanuel Macron s'inspire de la méthode de François Mitterrand, qui avait fait exactement la même chose pour assurer sa réélection en 1988.
Vous dites, Michaël Darmon, que le président de la République négocie lui-même, en direct.
Oui, bien sûr, il a reçu à l'Élysée, effectivement, il y a quelques jours, Belfarco pour déjeuner. Et puis surtout, tous les téléphones, toutes les négociations se sont faites via Emmanuel Macron ou même avec Thierry Solaire.
Négociations centralisées à l'Élysée, décryptage signé Michaël Darmon du côté des Républicains. Un conseil stratégique demain, la question d'une liste LR au régional est sur la table, puisque l'annonce a été faite hier. Hein, Renaud Muselier n'aura pas l'investiture dans sa région.
Il parle de coup de poignard dans le dos. Éric Ciotti, député des Républicains des Alpes-Maritimes, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1.
Son nom est évoqué dans une dizaine de dossiers. Il est poursuivi dans 2 affaires de meurtre et pour 3 agressions sexuelles sur mineurs. Nordal Lelandais va pour la première fois aujourd'hui affronter la justice. L'ancien militaire jugé pour le meurtre, il y a 4 ans, du caporal Arthur Noyer. Ce procès, vous allez le suivre à Chambéry pour Europe 1. Jean-Luc Boujon, correspondant en Auvergne-Rhône-Alpes. Marion Dubreuil du service police-justice. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On va d'abord avec vous, Marion, revenir sur ce qui a été le point de départ de ce procès. Tout est parti, en fait, de l'affaire Maëlys.
Oui, car c'est l'affaire Maëlys et son retentissement médiatique 4 mois après la disparition d'Arthur, un soir de bringue entre copains à Chambéry, qui va permettre de résoudre l'enquête. Jusque-là, les gendarmes tentent d'identifier le conducteur d'une Audi A3 susceptible d'avoir pris le jeune homme en stop la nuit de sa disparition. La vidéosurveillance ne permet pas de lire la plaque. Le problème, c'est qu'il y a près de 3000 Audi A3 immatriculés en Savoie. Or, quand Nordal Lelandais est soupçonné d'avoir enlevé Maëlys le 26 août dans la région, c'est aussi à bord d'une Audi A3. Les enquêteurs font alors le rapprochement. La voiture correspond en tout point à celle de la vidéosurveillance de Chambéry. Nordal Lelandais était bien sur place. Ces 2 téléphones activent les mêmes relais qu'Arthur Noyer à partir de 3h du matin, ce qui veut dire qu'ils se sont déplacés ensemble. Il a fallu 6 auditions pour qu'ils reconnaissent enfin son implication dans la mort du militaire. Mais ils parlent d'un accident, une bagarre initiée par Arthur Noyer qui a mal tourné.
Et cette explication, Jean-Luc Boujon, elle ne convainc pas les parents d'Arthur Noyer. Vous les avez rencontrés pour Europe 1.
Effectivement, ils estiment que Lelandais était ce soir-là en mode chasseur à la recherche d'une proie pour assouvir ses pulsions sexuelles. Et devant le refus d'Arthur Noyer de céder à ses avances, il l'aurait frappé à mort. Des parents qui affirment être prêts à faire face au meurtrier de leur fils. Didier, le papa, à la fois combatif et très ému avant ce procès. Écoutez.
Nous sommes prêts. Ça va être une épreuve supplémentaire, c'est évident. On attend que justice soit faite. Voilà, c'est tout.
Vous appréhendez de voir Nordal Lelandais ?
Pas du tout. Je n'appréhende pas de voir l'autre. Et j'espère que celui qui appréhende le plus, ce sera le bon.
Vous dites l'autre en parlant de Nordal Lelandais ?
Je dis depuis le début, je dis l'autre. Oui, effectivement.
Voilà, vous entendez le père d'Arthur Noyer qui refuse de prononcer le nom de Lelandais. Il a aussi affirmé qu'il ne baisserait pas le regard devant lui, qu'il serait en mode guerrier. Cela donne un peu le ton de cette audience.
Jean-Luc, on parlait tout à l'heure de la petite Maëlys. Cette affaire va évidemment être dans toutes les têtes pendant ces 8 jours d'audience.
Oui, absolument. Tout le monde va y penser, y compris les parents de Maëlys, hein, qui avaient imaginé pouvoir assister à l'audience et eux aussi voir l'assassin présumé de leur fille. Finalement, ils ne viendront pas pour ne pas parasiter ce procès qui n'est pas le leur. Le leur, justement, celui de l'affaire Maëlys, devrait avoir lieu l'an prochain à Grenoble.
Jean-Luc Boujon, Marion Dubreuil, merci. Vous nous ferez vivre ce procès sur Europe 1 dès aujourd'hui. C'est la personnalité de Nordal Lelandais qui sera examinée.
7h07 sur Europe 1. C'est la première des 4 étapes du déconfinement. Retour en classe et fin des restrictions de déplacement ce lundi.
Plus de limite de 10 km, plus d'attestations en journée, mais avec un couvre-feu toujours en vigueur dès 19h, elle reste indispensable pour circuler la nuit. Dans les écoles, retour des collégiens en classe, sauf dans les 15 départements les plus touchés par le Covid. Là, ce sera en demi-jauge. Les lycéens, de leur côté, alterneront entre présentiel et cours à distance.
Une étreinte qui se desserre et une campagne de vaccination qui s'élargit. Depuis ce week-end, tous les adultes présentant des comorbidités peuvent y prétendre et ça va même plus loin en Martinique. Injection possible dès 18 ans.
Les autorités ont en fait régularisé une situation qui avait déjà cours sur l'île. Reportage au vaccinodrome du Lamentin, Fanny Marceau pour Europe 1.
À tout juste 18 ans, Louis-Raphaël a reçu sa première dose il y a déjà un mois et revient aujourd'hui pour la seconde. Dans quelques mois, il partira faire ses études. Le vaccin le rassure.
Je pense que je ne vais pas le regretter normalement. Avec les passes sanitaires, si c'est mis en place en tout cas, avec le vaccin, je pourrais y aller et je pourrais sortir.
Elisabeth aussi tenait à se faire vacciner. À 41 ans, elle vient de recevoir sa seconde dose. À sa première piqûre, les vaccinations étaient pourtant officiellement réservées aux plus de 70 ans.
Il y avait des communications qui circulaient sur WhatsApp en disant en allant vaccinodrome, quel que soit votre âge, sans comorbidité, vous pouviez y aller. En arrivant, on nous laissait passer même sans comorbidité.
Si on a ouvert la vaccination aux jeunes aussi vite, c'est parce que les plus âgés ne se pressaient pas. Pour le docteur Daniel Vigé, médecin-chef adjoint des pompiers de Martinique, il était indispensable de les accueillir.
On a vu effectivement une croissance régulière du nombre de jeunes effectivement qui viennent. Et c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous intéresse ? Un taux de couverture.
Grâce à cette ouverture à tous, la couverture vaccinale a triplé en un mois. Malgré tout, le taux de vaccination en Martinique reste deux fois moins important que dans le reste du pays. Au Lamantin, Fanny Marceau, Europe 1.
Après les concerts, ce nouveau test ce week-end grandeur nature. C'était à Liverpool ce week-end. Deux soirées, deux DJ, 3000 personnes et en plus sans masque. Ça paraît vraiment très très loin. Avec un test négatif quand même, à expérimentation en vue outre-Manche pour la réouverture des boîtes de nuit. Ce sera le 21 juin prochain et ce, alors qu'en France, les discothèques sont les seuls établissements à ne pas avoir pu ouvrir un seul jour depuis le 17 mars 2020.
Mais quand je vous disais que ça paraît tellement loin, ça n'a rien à voir avec le Covid. Hein. C'est juste que je vieillis, Marion Calais. les boîtes de nuit, ça paraît très très loin. Bon, direction à présent Oakland, en Californie. C'est là que se tient à partir d'aujourd'hui un procès qui place tout le système d'Apple sur la sellette. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ce procès, il est intenté par Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite, qui dénonce le système fermé mis en place par Apple, notamment sur son App Store, son magasin d'applications.
Oui, c'est là qu'ont lieu les téléchargements, les mises à jour et les paiements. Alors Epic Games reproche à Apple le montant des commissions sur l'Apple Store, 30% prélevé sur chaque transaction. L'an dernier, l'éditeur de Fortnite avait tenté de contourner ce système afin de toucher directement l'argent des joueurs, mais s'était retrouvé banni de tous les appareils Apple. Epic Games accuse donc son rival d'abus de position dominante et son contrôle sur toute la ligne de production, du développement des applications jusqu'à leur distribution aux consommateurs. Et depuis plusieurs années, Apple se défend et explique que ses commissions servent à assurer la sécurité de l'Apple Store. En tout cas, le monde de la tech a déjà les yeux tournés vers cette bataille judiciaire qui doit durer 3 semaines, car son issue pourrait provoquer des changements de grande ampleur. Si Apple perd, l'entreprise pourrait être contrainte de laisser ses utilisateurs payer pour des applications sans passer par l'Apple Store. Les pertes de revenus seraient alors considérables pour le géant du numérique. Et signe de l'importance de ce procès, le patron d'Apple, Tim Cook, sera entendu par le juge.
Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. Témoignage donc attendu du patron d'Apple dans ce procès en Californie. Ce sera une finale 100% française. La Coupe d'Europe de rugby opposera dans un peu moins de 3 semaines Toulouse à La Rochelle. Les Maritimes qui se sont qualifiés hier face au Leinster. 6e fois de l'histoire de la compétition que deux clubs hexagonaux s'affrontent en finale. Et puis ce sera le 22 mai d'ailleurs cette finale. Et puis ce rendez-vous-là est fixé du 30 mai au 13 juin. Et à Roland-Garros cette année, il y aura bien des spectateurs. 1000 personnes maximum, parcours et un tiers de capacité. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre de l'Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Elles ont le vent en poupe dans les sacs à main, les sacs de sport, les gourdes en passe de remplacer les bouteilles en plastique.
Oui, qu'elles soient à motif, unies, en verre ou en inox, désormais plus 20% de ventes par an chez certains fournisseurs. Un Français sur deux en possède une. Un usage bien plus marqué chez les 18-24 ans. Zoé Pallier l'a constaté pour Europe 1.
Voilà, elle est pleine.
De 50 ou 75 centilitres, en inox ou en aluminium, uni ou bariolé, une gourde au fond du sac à dos, c'est devenu un incontournable pour plus de 7 jeunes sur 10.
À la bibliothèque, maintenant j'ai remarqué que tout le monde avait sa petite gourde.
Je l'utilise tout le temps, vraiment, c'est beaucoup plus pratique.
Mais les gobelets, ça n'existe plus, si. Il y a encore des gobelets en plastique dans les bureaux et tout.
Le gobelet en accès libre à la fontaine à eau, c'est presque devenu une hérésie pour certains. L'objet honteux, polluant, qui incite des entreprises à investir dans des gourdes aux 1000 logos, au risque que des salariés ne les délaissent au fond d'un tiroir, comme cette mère de famille parisienne.
Mes ados utilisent des gourdes, alors que moi je vais conserver des bouteilles en plastique et les re-remplir.
Une rupture générationnelle qui va progressivement s'effacer, selon Philippe Moiti, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation.
Est-ce que c'est une avant-garde qui est en train de changer les normes, hein, et progressivement les aînés emboîteront le pas? C'est probable. Les jeunes nous donnent un peu les tendances pour le tout venant au cours des années à venir.
Des jeunes prescripteurs et des parents qui le promettent. Parmi tous les objets plastiques du quotidien, la bouteille sera la première qu'ils finiront par supprimer.
Voilà, des jeunes qui montrent l'exemple, donc.
Un Français sur deux en possède une désormais. Ça a été très vite pour le coup. Merci beaucoup, Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1, 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Selon une étude du site Cadre Emploi publiée au mois d'août, 8 cadres parisiens sur 10 souhaitent quitter la capitale. Et ce n'est pas nouveau, hein. Ça fait 8 ans qu'on remarque cette tendance. Eh bien, un nouveau magazine s'intéresse à vous, si c'est votre cas. Ça s'appelle Néo-Ruraux. Et comme son nom l'indique, il parle de ces Français qui quittent la ville avec une envie de campagne. Ces derniers mois, ça a forcément dû vous traverser l'esprit. Les réponses aux questions que vous vous posez avec Denis Pilato, c'est le rédacteur en chef de ce nouveau magazine. Le tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et le transport aérien traverse une crise historique et pourtant, on n'a jamais vu autant de nouvelles compagnies se créer.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Appelons ça le goût d'entreprendre. Alors que le secteur aérien subit depuis un an la plus grave crise de son histoire, on n'a jamais vu autant de nouvelles compagnies se créer.
On en recense un peu plus de 90 un peu partout dans le monde, prêtes à décoller. Alors certains y verront un cas d'école du fameux processus de destruction créatrice, théorisé par l'économiste autrichien Joseph Schumpeter. Et de fait, alors que de vieilles compagnies sont balayées par la crise du Covid, eh bien d'autres renaissent sur ses cendres avec des idées nouvelles. Alors on ne connaît pas encore leur nom, hein. Elles s'appellent Avelo Airlines ou Breeze Airways aux États-Unis, Rex en Australie, Flyer ou encore Norse Atlantic en Europe. Il y en a même une qui s'appelle Ego en Italie, ça ne s'invente pas.
Ego, pourquoi pas? Et comment est-ce qu'on explique cette floraison de nouvelles compagnies aériennes?
Et bien d'abord parce que la pandémie a considérablement réduit le coût d'entrée sur le marché. On trouve des avions à moitié prix. Un exemple, en Australie, la nouvelle compagnie Rex, fondée par un ancien ministre des Transports, a pu louer 6 Boeing 737 à 50% du tarif d'avant la pandémie. Ces appareils avaient été cloués au sol par Virgin Australia qui a dû tailler dans sa flotte et ses effectifs. Même chose en Europe, on loue des avions à 40 ou 50% de rabais. Et puis autre facteur, les aéroports font tout pour attirer de nouvelles compagnies, y compris à coût de subventions. Et puis enfin, il y a le personnel. Comme des compagnies traditionnelles licenciées, eh bien, il est plus facile de recruter de bons pilotes et du personnel de bord.
Mais est-ce que ces compagnies sont sérieuses ?
Oui, absolument. Elles sont fondées par des
Vous montez à bord, vous ?
Écoutez, oui,
c'est la seule question.
C'est des compagnies qui sont fondées par des gens qui connaissent très bien le business. Et puis, alors, cas typique, par exemple, en Europe, vous avez cette compagnie Norse Atlantic qui va se lancer dans quelques mois sur les décombres de Norwegian. Et on trouve, en fait, les mêmes actionnaires, les mêmes avions qui leur ont coûté moins cher, et puis du personnel Norwegian. Cette nouvelle compagnie proposera d'ailleurs d'ici la fin de l'année un Paris Charles de Gaulle New York en Boeing 787 à un tarif low cost. Vous savez.
Oui, donc on va retenir son nom, hein. Norse Atlantic. On va en entendre parler à nouveau.
Voilà. Vous savez, toutes les crises ont toujours favorisé les nouveaux entrants. Aux États-Unis, JetBlue a vraiment décollé après la crise du 11 septembre 2001. En Europe, c'était pareil. EasyJet, Ryanair ont vraiment décollé à cette période, alors que le transport aérien était vraiment en pleine crise. Et la même histoire aujourd'hui, au fond, se répète.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Et puis on se projette un peu sur les vacances que nous pourrons prendre un jour avec tous ces avions. Merci Nicolas. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, vous n'irez pas en Iran?
Non, pas cette semaine en tout cas. Le troisième round de négociations sur le nucléaire iranien à Vienne s'est tenu ce week-end. Les Iraniens ne lâchent rien, le dialogue est un combat.
Oui, un mois de palabres et les diplomates en sont encore à mesurer leur désaccord. Les Européens s'arrachent les cheveux, les Russes envisagent une percée dans 3 semaines, mais ça les arrange que l'Occident et leur allié iranien se tournent le dos. En 2015, d'ailleurs, ils ont tout fait pour saboter l'accord. Il a été conclu à l'arraché parce qu'Obama y tenait absolument. Et le ministre Sergueï Lavrov n'est pas sur la photo finale où les ministres qui viennent de signer arbore le grand sourire de soulagement des négociateurs épuisés.
Le ministre iranien des Affaires étrangères dénonce le double jeu russe.
Alors Mohamed Javad Zarif négociait il y a 6 ans et en racontant ses souvenirs, il croyait faire un bilan, il s'est fait harakiri. L'enregistrement devait rester confidentiel, mais le New York Times en a publié des extraits. Javad Zarif dénonce le poids des gardiens de la révolution, il se plaint que la diplomatie soit sacrifiée au profit des militaires, alors que ça devrait être le contraire. Il a franchi une ligne rouge, une enquête est ouverte pour complot, les réformateurs viennent de perdre leur meilleur candidat à l'élection présidentielle. Le guide suprême lui a donné le coup de grâce ce week-end en déplorant de grosses erreurs. Et le pire, c'est d'entendre Javad Zarif lui-même implorer le pardon de la famille respectée du martyr Soleimani, le chef des gardiens de la Révolution.
Le camp conservateur est renforcé.
Eh bien, les infos du week-end, c'est 1. Le bombardement au mortier des djihadistes américains à Bagdad par les milices aux ordres de l'Iran. 2. La venue du chef des services secrets saoudiens, comme s'il avait la corde au cou. L'Arabie a perdu son bras de fer. 3. Le calvaire des Européens, jeté aux oubliettes. L'otage britannique, Nazanin Zaghari, a été condamné à 2 ans supplémentaires après 5 ans de prison. La télé iranienne annonce qu'elle sera échangée contre 400 millions d'euros. Londres dément, mais reconnaît une vieille dette de 400 millions qu'il faudrait rembourser. Ça fait 40 ans qu'à l'heure de négocier, Téhéran renforce la pression sur l'Occident. L'Iran compte sur sa force, autant que sur sa ruse, sur ses militaires davantage que sur ses diplomates, pour obtenir à Vienne un accord limité et sans aucun risque pour le régime.
Merci Vincent Hervouet, le regard international. Il est 7h20 sur Europe 1. Dans quelques instants, l'édito sport de Virginie Fulpin. Et juste après, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, j'avais un peu la flemme ce matin. Mais d'où ça vient, la flemme du lundi matin?
Eh bien, la réponse dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le Stade Rochelet va disputer la première finale de Coupe d'Europe de rugby de son histoire. La Rochelle a battu le Leinster 32-23 hier. Pour vous, c'est une victoire en forme de promesse.
Oui, la promesse du retour des beaux jours. En un après-midi, on a replongé avec délice dans ces moments hors du temps où une ville, une région ne fait plus qu'une avec son équipe. Des drapeaux jaunes et noirs accrochés au balcon de la Rochelle, à la liesse d'après-match quand les joueurs sont allés partager leur succès avec leurs supporters derrière les barrières. Les masques sur les visages n'empêchaient pas les sourires d'éclater. C'est dans ces moments de communion qu'on se rend le plus compte que cet échange si précieux entre acteurs et suiveurs nous a tant manqué dans cette saison sportive. L'émotion d'une victoire partagée, ça vaut tous les trophées. Non, cette année de huis clos n'a pas eu raison de la passion. Elle est toujours là, palpable, prête à éclore à nouveau, comme la promesse de retrouver des temps meilleurs. Il faut dire que malgré les tribunes vides, le Stade Rochelet a senti cette foule le porter pendant sa demi-finale contre le Leinster. Et l'équipe en avait bien besoin. Elle, néophyte à ce niveau, face à l'ogre irlandais et ses 4 titres européens au compteur. Elle mangeait dans une première partie de match acquise aux adversaires expérimentés. Et elle qui a su se révolter, changer le cours de la partie et se découvrir des ressources physiques inconnues jusque-là. La promesse d'un conte de fées qui finit bien.
Alors, l'histoire n'est pas finie, hein. Il reste une finale contre un autre club français, le Stade Toulousain.
Ouais, une nouvelle finale franco-française, la première depuis 2015, ça flatte nos égos tricolores. Et comme on a mauvais esprit, c'est aussi la promesse d'un joli pied de nez, puisque cette finale aura lieu le 22 mai à Twickenham, le temple du rugby anglais transformé en théâtre des exploits pour les clubs français. Avouez que ça ajoute encore un peu de sel à cette finale déjà relevée. Il y a des rivalités sportives que tous les huis clos du monde ne parviendront jamais à éteindre, et tant mieux. Le 22 mai, 2 clubs français vont essayer d'entrer dans l'histoire. Le Stade Toulousain pour être le seul club avec 5 couronnes européennes. Le Stade Rochelet pour décrocher sa première. Une histoire sportive comme on les aime. Et en plus, avec du public, celui sans lequel rien n'est possible. 10 000 personnes devraient être présentes en tribune à Twickenham. Vous voyez que c'est la promesse du retour des beaux jours.
Oui, 10 000 personnes, vous rendez compte, c'est une...
bah, on imagine même plus
non,
que ça.
J'arrive même pas à compter jusque-là. Virginie Fulpin, merci beaucoup. C'est l'édito sport et c'est tous les matins sur Europe 1, 7h25. Comme tous les matins, on retrouve Stéphane Bern pour notre mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est lundi, c'est le début de la semaine. Ouais. Bon, ça peut arriver n'importe quel jour. On peut avoir, et c'est humain, une grosse flemme. Mais la flemme, d'où vient ce mot?
Alors avoir la flemme, faut-il le définir? C'est avoir envie de paresser le matin, mais effectivement, ça peut aussi avoir lieu la journée, devant une tâche qu'on a pas très envie d'accomplir ?
Oui, avoir la flemme, c'est une expression récente. Elle date du milieu du XXe siècle, alors que flemmard, avec un seul M, apparaît dès 1874. Une formule est utilisée alors, on parlait d'un batteur de flemme pour parler d'une personne fainéante. La flemme vient de flemma, qui signifie dans l'Italie du XVIe siècle la lenteur, la placidité. Mais en fait, écoutez bien, tout commence vraiment au XIIIe siècle, médicalement on croyait en la théorie des humeurs. Pour les savants de l'époque, notre corps était composé de sang qui nous donnait de la jovialité, de bile noire qui nous rendait anxieux, de bile jaune qui nous poussait à être belliqueux et de la lymphe rattachée au cerveau qu'on appelait aussi phlegme et qui pouvait nous rendre apathiques. On était donc tributaires de toutes ces humeurs et trop de lymphe nous rendait lymphatiques comme trop de phlegme pouvait nous rendre au mieux phlegmatiques, au pire franchement tire au flanc. La saignée qui était censée chasser les mauvaises humeurs, avec les résultats catastrophiques que l'on connaît, étaient donc directement basés sur cette théorie. Allez, terminons sur un sourire et un bon mot de l'écrivain Robert Sabatier. Que la paresse soit l'un des 7 péchés capitaux nous fait sérieusement douter des 6 autres, comme il a raison.
Mais j'apprends que flemmard est antérieur à flemme.
À flemme,
mais la prochaine fois qu'on me dit vous êtes un flemmard, je dirais non, je suis flegmatique.
Non, vous êtes un batteur de flemme. Moi j'adore cette expression.
Batteur de flemme. Vous savez, après la flemme de 7h26, on aura la sieste de 8h35 avec Jimmy Mohamed. Nos conseils santé ce matin sur la sieste, tout ça, c'est.
Le tout, c'est que vous soyez réveillé pour 16h, parce qu'avec Mathieu Noël, il y a historiquement votre, sur Europe 1. Aujourd'hui, on réunit le compositeur de génie Frédéric Chopin, l'acteur et chanteur Yves Montand et Françoise Hardy. Alors vous vous demandez, quel est leur point commun ?
Quel est leur point commun ?
Eh bien, le trac. Ils ont réussi à cacher le trac et ont connu malgré ça, comme vous pouvez l'imaginer, un énorme succès.
Historiquement vôtre, de 16h à 18h, Stéphane Bern et Mathieu Noël sur Europe 1. Il est 7h27, nous retrouvons Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Rebonjour. Eh bien, j'en connais qui vont pouvoir flemmarder au soleil, puisqu'aujourd'hui il va faire beau sur une grande partie de la France. Alors profitez-en, c'est le premier jour de la semaine. La semaine ne s'annonce pas de la même veine, à savoir que le temps bascule vers l'Atlantique, les perturbations océaniques sont maintenant en embuscade et c'est la moitié nord qui va se régaler de pluie, si je puis dire, pour ceux qui en veulent. Sur la moitié sud, ce sera agréable et même très agréable en Méditerranée. Voilà la grande tendance pour la semaine. Aujourd'hui, eh bien, c'est une journée entre parenthèses, avec cette perturbation que l'on voit sur le Devon, sur la Cornouaille, donc sur les Angleterres. Et cette perturbation est en train d'arriver vers les côtes de la Manche. Elle va toucher la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais, Manche et Mer du Nord. De plus en plus nuageux dans ces contrées, avec un voile de plus en plus épais. Le vent tourne au sud-ouest, 40 à 50 km/h, et la pluie sera là la nuit prochaine. La pluie va d'ailleurs traverser une petite partie de la France la nuit prochaine. Sur la vallée de la Loire, la région parisienne, la Champagne et les Ardennes, un petit voile, ce ne sera pas forcément très ensoleillé, mais enfin si quand même, l'impression sera agréable avec 18 degrés à Paris, ce que nous n'avons pas connu hier, il en faisait à peine 14-15, c'était pas terrible. Alors, puisque je parle de température, 15 degrés à Sedan, 16 degrés à Caen, 17 à Bourges, 18 à Lyon, 19 à Nice, 20 degrés à Marseille, pour les plus fraîches, Brest et La Rochelle, autour de 14 degrés. Voilà pour l'essentiel ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlerai peut-être des tendances pour l'été, parce que j'ai vu que Météo France avait lancé une prévision pour l'été de cette année. Et voilà, je voulais dire ce que j'en pensais.
Ah oui. C'est positif, négatif, juste d'un mot.
Il va faire chaud.
Il fera chaud à un moment
surtout,
en été.
Surtout le mot qui m'a marqué, c'est pas de canicule. Ça, j'avoue que c'est un petit peu surprenant, mais enfin, voilà.
On va en reparler tout à l'heure. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Il est 7h29 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est presque 7h30.
En ce moment, on constate que les réservations se font à 90% pour la destination France.
La flambée des réservations avec la levée ce matin des restrictions de déplacement par endroit, il n'est déjà plus possible de trouver une location disponible. Nordal-Lelandais devant les assises de Chambéry, le maître chien comparé à partir d'aujourd'hui pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Et puis c'est une information Europe 1, une nounou de la Baule est accusée de violences physiques et sexuelles sur un enfant de 5 ans dont elle avait la charge.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité, le tête-à-tête Europe Matin avec le rédacteur en chef de Néo Ruraux, un magazine qui raconte ces urbains qui quittent la ville et migrent à la campagne. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Je vais vous parler de la préparation des élections régionales. Emmanuel Macron vient de subir une défaite qui est en réalité une importante victoire politique.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de 8h15. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette fois, ça y est, les restrictions de déplacement sont levées, finie la limite des 10 km, une première bouffée de liberté. Dès ce week-end, 900 TGV vont circuler avec 350 000 passagers à bord et les réservations se multiplient pour les ponts du mois de mai, mais aussi pour cet été, Carole Ferry.
Oui, il y a eu un peu de retard au démarrage en effet, mais ça y est, les résidences de tourisme se remplissent avec des séjours de plus de 2 semaines en moyenne, c'est plus que d'ordinaire. Du côté des locations de meublés, le taux de réservation est quasiment équivalent à 2019. C'est le cas par exemple pour Le Bon Coin, les Gîtes de France ou encore à Britel. Et selon son porte-parole Xavier Rousselot, on réserve plus que d'habitude cette année en France.
On était autrefois, avant la pandémie, avec des réservations qui étaient à 70% environ pour la France et 30% pour des séjours à l'étranger. En ce moment, on constate que les réservations se font à 90% pour la destination France.
Alors, il est quasiment déjà trop tard pour les biens un peu rares, comme les grandes maisons avec piscine. Mais rien n'est perdu, puisqu'avec les conditions d'annulation plus souples cette année, il y aura sans doute des désistements quand les frontières vont s'ouvrir. À noter le succès plus modeste des campings. Ils enregistrent moitié moins de réservations qu'en 2019 pour cet été. Mais cela pourrait évoluer maintenant que les étrangers sont autorisés à revenir en France, munis d'un passeport sanitaire. À partir du 9 juin.
Carole Ferry pour Europe 1.
Certains profiteront peut-être de cette liberté retrouvée pour aller dans les Alpes-Maritimes où, dès demain, le port du masque ne sera plus obligatoire sur le littoral, la plage, et dans les espaces verts.
Et du coup, une question se pose ce matin. Le port du masque à l'extérieur est-il encore indispensable? D'autant qu'on le sait, Victor Dolande, les contaminations en extérieur sont très faibles.
Oui, presque inexistante même. Selon les différentes études, ces contaminations extérieures représenteraient entre 0,5 et 5 % de l'ensemble des cas. Pour Yves Kopiters, épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles, l'obligation du masque à tout prix et à tout moment à l'extérieur n'a plus de sens.
Je pense que la population est prête à prendre ses responsabilités et être dans une dynamique de gestion des risques et pas à tout prix d'une gestion de la peur du virus à tout moment. Le grand public, nous tous, nous sommes capables de comprendre ça et capables de se dire, ah ben voilà, moi je me mets dans une situation à risque, donc je mets mon masque, j'applique les gestes barrières, et dans d'autres situations, ben fatalement, j'ai plus de liberté.
Mais ce bon sens ne veut pas dire qu'il faudrait abandonner le masque partout en extérieur. Pour les scientifiques, il y a 3 critères importants à retenir, la distance, la durée d'exposition à une personne non masquée, 15 minutes minimum, et l'intensité de l'exposition. Autrement dit, si vous êtes seul dans la rue, se couvrir le visage n'a pas beaucoup de sens. En revanche, dans des attroupements de population, dans des espaces très restreints, là, il faudra ressortir le masque.
Victor Dolande pour Europe 1. Eux aussi vont ressortir le masque aujourd'hui pour aller en cours. Les collégiens de retour une semaine après les primaires et les maternelles. Ce sera en demi-jauge seulement pour les 4e et les 3e et pour les lycéens des départements les plus touchés.
Les régionales en PACA et la droite qui se déchire après l'alliance entre La République En Marche et Les Républicains.
Renaud Muselier s'est vu retirer l'investiture de son parti. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui avait dénoncé un coup de poignard dans le dos avec cette alliance, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
Nordal Lelandais pour la première fois devant une cour d'assises.
Il est jugé à partir d'aujourd'hui pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. C'était 3 mois avant Maëlys, en avril 2017. Une trentaine de témoins et une dizaine d'experts sont attendus à la barre.
Et puis cette information Europe 1. Une nounou accusée de violence physique et sexuelle sur un enfant de 5 ans dont elle avait la charge.
Une affaire qui a démarré en juillet dernier par le simple signalement d'un témoin. Il a vu le petit garçon violemment pris à partie par sa nourrice devant un manège de la Baule. Chloé Triomphe.
Oui, ce témoin, stupéfait par la violence de la scène, a tout de suite réagi, comme en témoigne l'avocat de la famille du petit garçon, Maître Oudy Bloch.
Il y a eu des hurlements contre cet enfant qui était assis sur un banc et recroquevillé sur le banc, et comme il ne réagissait pas à ces provocations, il y a eu des coups portés, des fessées, des claques sur les cuisses, des pincements très forts. La nourrice l'a poussé violemment contre le banc, et tout ça a été suffisamment violent pour qu'il y ait un signalement fait à la police.
Au départ, l'enquête s'oriente vers une simple convocation devant le tribunal pour violence. Mais le petit garçon se confie, il parle de sévices sexuels et il faudra la persévérance de sa mère et de son conseil pour réorienter l'enquête pour agression sexuelle lors d'un premier rendez-vous d'audience en avril dernier.
Les déclarations de cet enfant sont constantes, des déclarations auprès de sa mère, auprès de 3 personnes pédopsychologue. Nous savions qu'il s'agissait de pénétration et donc de viol.
L'affaire a été suffisamment prise au sérieux par le maire puis par le préfet qui sont intervenus pour que la nounou mise en cause soit suspendue de ses autres emplois dans plusieurs écoles et dans une MJC. Et la justice doit désormais statuer sur la demande de requalification des faits en viol sur mineur.
Chloé Triomphe pour Europe 1. Si vous êtes victime ou témoin de violence, n'hésitez pas à le signaler au 119.
Un chiffre à présent, 17%. 17% des logements trop énergivores en France. La loi climat votée demain à l'Assemblée veut changer la donne.
Et l'objectif, c'est d'en finir avec les passoires thermiques. Si le texte est validé, les propriétaires de ces logements auront de nouvelles obligations, Maud Descamps.
Si vous êtes propriétaire d'un logement classé G, vous ne pourrez plus le louer en l'état à partir de 2025. Il vous faudra faire des travaux de rénovation énergétique. Par ailleurs, dès 2023, les loyers des passoires thermiques seront gelés pour inciter les propriétaires à faire des travaux. Si vous décidez alors de vendre votre bien, vous aurez l'obligation de réaliser un audit thermique afin que l'acquéreur connaisse précisément l'état du logement. Ces nouvelles obligations en matière de DPE, de diagnostic de performance énergétique, vont changer le comportement des acheteurs, selon Yannick Hénouche, PDG du réseau de diagnostic immobilier Exim.
Aujourd'hui, quand on fait de l'immobilier, on dit il y a l'emplacement qui compte, l'emplacement. Demain, indéniablement, il y aura le DPE. Qui va acheter un bien qui consomme beaucoup d'énergie? Ce sera plus intéressant, ce sera plus flexible. Et donc, du coup, je pense que le DPE va devenir le premier marqueur de l'immobilier en France.
Et puis, autre mesure phare du projet de loi, la création d'un accompagnateur Rénov, qui aura pour mission d'accompagner de A à Z les propriétaires qui effectuent ces travaux, du plan de financement au suivi du chantier de rénovation énergétique.
Maud Descamps pour Europe 1.
Et puis le foot, la Super League continue de faire des remous hier. Des supporters de Manchester United ont envahi le stade d'Old Trafford.
Et ce sont eux qu'on entend en fond, des supporters en colère contre la direction de Manchester City, brièvement impliqués dans le projet de la Super League. Du coup, le match face à Liverpool a été reporté. City est donc privé d'un possible sacre avant sa demi-finale retour de Ligue des Champions. Ce sera demain face au PSG.
On aura l'occasion d'en reparler, oui, demain face au Paris Saint-Germain. Émilie Dez, merci beaucoup. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La campagne des régionales, la droite qui se déchire ou alors Emmanuel Macron qui déchire la droite, ça c'est à vous de choisir. L'édito politique de Nicolas Bétou dans 10 minutes, on va mesurer le gain politique de La République En Marche avant de questionner les alternatives pour LR dans le journal de 8h et de retrouver Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk, ce sera à 8h15. Une autre campagne, celle qui attire les urbains qui troquent leur costume cravate pour une nouvelle vie en zone rurale. Dans un instant, Denis Pilato, rédacteur en chef de ce nouveau trimestriel qui porte bien son nom, néo-ruraux. C'est le tête-à-tête Europe Matin dans un instant. Tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy, bonjour.
Bonjour Mathieu, j'ai vu les premières images de la nouvelle série Netflix, ça a l'air génial, j'ai juste pas compris pourquoi c'est Emmanuel Macron qui a partagé le teaser.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h41 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand, comment ça va?
Bah écoutez, comme tout le monde j'imagine, ça va super, ça y est, on est enfin sorti de la crise. J'aurais pas cru dire ça un jour quoi. Ça y est, c'est fini, fini le Covid.
Mais qu'est-ce que vous racontez?
Bah, quoi, vous avez pas vu le spot d'Emmanuel Macron?
Non.
Bah attendez, le message est clair, l'épidémie est derrière nous. Hier sur ses réseaux, le président a mis en ligne un spot de 58 secondes, que vous entendez en fond, pour annoncer le calendrier des réouvertures. Des images léchées qui ne nous présentent que des gens heureux, des enfants qui sautillent en allant à l'école, des gens au restaurant, en terrasse, au sport, au stade, au musée, au ciné. Le tout avec la petite musique qui va bien et des dates. Ça y est, le président se prend pour Netflix. Il nous tease le déconfinement comme si c'était la nouvelle saison de la Casa des Papel. Déconfinement, sorti prochainement. Tout doum. Tout doux plutôt, tout doux. Parce que les chiffres sont pas dingos. Hein.
Non,
tout doux. Je reviens deux secondes sur les belles images de cette bande-annonce qui fantasme le déconfinement. Elles n'ont pas été tournées par l'Elysée. Ce sont des images d'une banque d'images. Des images libres de droit. Pour nous annoncer qu'on a le droit d'être libre, ça paraît logique. J'avais un peu de temps à perdre. Alors j'ai retrouvé les vidéos originales. Bon, c'est bien foutu de notre tronche, Mathieu. Par exemple, les enfants qui sautillent dans le couloir de l'école, en réalité, ils sautillent pas parce qu'ils sont contents de retrouver Jean-Michel Blanquer, non?
Ah bon?
Non, bah déjà parce qu'ils le connaissent pas. Ce sont des enfants slovaques, d'une école slovaque, si si. Et s'ils sautillent, c'est parce qu'ils rentrent à la maison, comme l'indique la légende. Les étudiants qui se checkent du coude, ils sont américains. Et les cyclistes, ils pédalent sur les pavés d'un pont d'Amsterdam. Donc les trois quarts des gens heureux du déconfinement en France dans la bande-annonce ne vivent même pas ici. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Macron rouvre tout, hein, ça se trouve, lui aussi, il a regardé les courbes, mais d'un autre pays. Ah, la magie de la pub. On a toujours des surprises, hein. D'ailleurs, Emmanuel Macron a repompé tous les codes de la pub pour cette vidéo. Comme dans les spots pour voitures, tu passes une minute à te dire « Waouh, mais c'est génial, je veux tout ça !» Et à la toute fin de la pub, en tout petit, il y a la douille, les conditions particulières. C'est la même chose avec le spot du président. Une minute à baver sur les restos, les bars, les salles de cinéma. Le message, c'est « On rouvre tout !» Tu dis « Waouh, je veux tout ça, moi !»
Je veux tout ça, moi.
Et sur la toute dernière image, en petit, en blanc, sur du bleu très clair, donc quasiment pas lisible, apparaît la mention « Sauf situation sanitaire départementale dégradée. » Ah, c'est fourbe, ça. Non, mais quitte à nous vendre le déconfinement comme si c'était une bagnole, autant y aller franco la prochaine fois. La liberté, c'est bien plus que pouvoir se déplacer. C'est pouvoir réaliser ses rêves, boire un café, voir un film, manger une entrecôte. C'est vous qui détenez la clé de cette liberté. Nouveau déconfinement, by Emmanuel Macron. La liberté est un état d'esprit. Promesse non contractuelle, offre soumise à condition. Détails sur Santé publique France et Covid Tracker.
Oh, il le tient bien.
Ça le fait plus comme ça.
Tout doux.
Tout doux.
Des images léchées qui nous présentent que des gens heureux. Vous n'aimez pas le bonheur, Bertrand Chameroy?
Je suis complètement sinistre.
Tout à l'heure, 10h. Bertrand Chameroy, on vous retrouve avec Philippe Vandel. Dans Culture Média, il est 7h43.
Europe Matin. Le 7-9.
100 000 citadins changent de vie chaque année. Lassés du rythme de la ville, ils choisissent des zones rurales éloignées. Parfois, c'est la technique avec le télétravail ou les transports qui permettent de s'éloigner du bureau. Après plus d'un an de pandémie, avec des préoccupations environnementales croissantes, on se penche sur ce mouvement. On vous apporte des réponses. Denis Pilato est rédacteur en chef du nouveau magazine trimestriel Néo-Ruraux. C'est mon invité ce matin.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
On navigue entre votre témoignage et des tendances plus générales. On essaye d'être pratique aussi avec votre magazine. À quel besoin répond-il? Denis Pilato, bonjour.
Bonjour.
Quel mouvement est-ce que vous accompagnez?
Ben, on accompagne tout ce mouvement que vous avez cité, là, 100 000 familles qui quittent les grandes villes chaque année, et puis aujourd'hui surtout un urbain sur deux qui commence à se poser la question, ce qui est quand même un chiffre qui pèse. Et on s'est dit qu'il y avait quand même matière à essayer de, à la fois d'accompagner sur le plan pratique, mais aussi de porter un regard sur ce qui nous semble être quand même une nouvelle forme de société qui est en train de s'inventer, là.
Les premiers mots du magazine, c'est votre édito, hein. Il y a un peu plus d'un an, j'étais derrière ma fenêtre dans un appartement du côté des Halles. Vous avez vécu 25 ans à Paris, centre. Je commence par la dernière question, Denis Pilato. Ça ne vous manque jamais?
Ça me manque moins que je ne le pensais. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai envisagé cette néo-ruralité, je me suis fait un petit budget, etc., pour me dire bon ben combien tout ça va me coûter. Et j'avais envisagé de venir à Paris une semaine tous les deux mois, donc un petit Airbnb pour être sûr de ne pas perdre la vie parisienne. Et bien en fait, je m'aperçois que ça me manque pas et que finalement. On est pas mal à la campagne quand même.
Alors il y a cette étude cadre emploi que je citais, il cherche un meilleur cadre de vie, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Il y a la question climatique qui s'invite aussi, plus de 8 cadres parisiens sur 10 souhaitent quitter la capitale. J'insiste, ça n'est pas un chiffre issu du confinement, c'est une tendance, ça fait 8 ans que ça dure.
Oui, d'ailleurs, moi, je suis assez méfiant, enfin assez prudent, on va dire, sur le confinement, parce que je pense qu'il va y avoir un effet élastique. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais qui vont revenir, parce que, comme vous l'avez cité, la question du travail, elle est tout à fait clé. Mais je crois que, en revanche, le changement climatique et notamment l'inadaptation totale des villes, malgré ce qui en est dit, au changement climatique, et ce qui va nous tomber dessus dans les 10-15 ans, ça va être, comment dirais-je, le renforcement d'une tendance, effectivement, à aller vivre au vert.
Alors on va essayer d'être le plus pratique possible ce matin, Denis Pilato, pour nos auditeurs qui seraient peut-être tentés. Alors des conseils dans le magazine, vous en donnez plein. Et puis vous dites plein de choses aussi. Il faut y aller, il faut construire un projet, mais il faut se lancer, vous êtes enthousiaste. Mais vous dites d'y aller petit à petit. Ça veut dire quoi, petit à petit?
Bah, je pense qu'il faut faire des tests. Moi, par exemple, à titre tout à fait personnel, avant de me lancer, je me suis dit, quelle campagne j'ai envie d'aller. J'ai identifié que je voulais être à une heure de Paris en train pour des raisons de boulot, que je voulais une campagne un peu préservée, etc. J'ai identifié deux villes, Tours, Dijon, et j'ai loué une maison en rase campagne, une ferme, pendant 3 mois à Tours, et puis après 3 mois en Bourgogne. Et puis, j'ai testé la chose. De même, si je sais pas si vous voulez vous lancer une activité agricole ou de la pisciculture, décrochez votre téléphone, appelez un pisciculteur et dites-lui, je viens, accueillez-moi, je viens bosser un mois avec vous, même bénévolement. Il vous accueillera, c'est souvent des petites structures, il vous accueillera très volontiers, il vous expliquera un peu son métier.
C'est-à-dire qu'avant de vendre son appartement, d'acheter un logement dans un endroit qu'on ne connaît pas, d'inscrire les enfants dans une école qu'on ne connaît pas, etc., vous dites on peut piocher, essayer, un mois par-ci, un mois par-là.
Absolument, on peut essayer, on n'est pas obligé de déplacer toute la famille tout de suite. Il faut se former, il faut aller à la rencontre, il faut voir comment ça marche. Et même quand on se déplace dans toute la famille, par exemple, moi je recommande toujours, n'achetez pas depuis Paris, Marseille ou Lyon. Enfin, allez vous installer, louer, allez dans la région, découvrez la région, etc. Et puis trouvez les coins qui vous plaisent, ceux qui sont bien aussi par rapport aux enfants, les lycées, les écoles, etc. Et donc voilà, il faut y aller de manière pragmatique.
Prendre le temps de bien choisir. Que... Alors, je regardais aussi, je voulais vous poser la question sur le magazine, sûr. Qui est très positif. Hein. C'est un grand sourire, il y a une vraie bouffée d'oxygène quand on tourne les pages de néo-ruraux. Cela dit, est-ce qu'on y voit aussi les écueils? Je veux dire que tout n'est pas rose. Il y a des conflits, culturels entre les néo-ruraux et les ruraux de toujours. On a beaucoup parlé du chant du coq ou du clocher, mais il y a aussi des questions qui peuvent se poser, par exemple sur ces Parisiens qui arrivent avec une certaine vision de l'environnement, qui peut se heurter à certaines pratiques.
Oui, bon, moi je pense que le coq Maurice, ça existe pas. Enfin oui, c'est 2-3 grincheux. Mais dans l'ensemble, les gens qui optent pour la néo-ruralité, ils ont une envie, c'est de vivre à la campagne. Ils en connaissent tout à fait les conséquences. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que toutes les familles qu'on a interviewées, elles étaient très différentes. Il y a plein de néo-ruralité, il y a plein de milieux sociaux, il y a plein de façons de vivre la néo-ruralité. Mais pourtant, ils avaient tous des valeurs en commun, et notamment le désir de s'intégrer, le désir d'avoir une vie peut-être plus harmonieuse, un impact même sur le plan consumériste, etc., moins fort. Enfin, tous ces gens-là, on sentait qu'ils avaient une énergie qui était commune. Et c'est pas des Parisiens avec un regard qui cherchent à ramener Paris dans les villages, au contraire.
C'est ça. Alors, je voyais aussi dans le magazine, il y a cette interview d'un maire des Landes, Jean Barrère. Alors, il est maire du village où il est né. Hein. Lui, c'est pas un néo-rural du tout. Alors, il explique comment il accueille justement cette nouvelle population urbaine, surtout sur le sud-ouest. Comme ça, on voit beaucoup d'urbains arriver. Je voyais aussi Salomé Berlioux, qu'on a reçu ici à plusieurs reprises et qui a écrit Nos campagnes suspendues. Elle a travaillé sur la jeunesse rurale en plein confinement. Elle disait quand même, au mois de mars-avril dernier, il y a un an, ce qu'on a beaucoup vu, c'est la France des vacances. C'est la France des plages, la France des montagnes. C'est pas la zone rurale dans le dur où on sait qu'on doit attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous médical. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr. Mais comment dirais-je, pendant le confinement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont testé la France des campagnes qu'on n'a pas montré. Moi, personnellement, par exemple, quand je vous disais que j'étais en train de tester une maison en Bourgogne, c'est tombé en plein en confinement, au milieu de mon séjour. Hein, et je peux vous dire que c'était le torture test parfait pour savoir si effectivement mon projet était viable et si d'une certaine façon, le silence des campagnes, d'une certaine façon. Ça correspondait à ce que je voulais.
Alors, il y a plusieurs choses. Je conseille le dossier Les ados ont du mal à suivre, hein, parce que parfois les idées des parents ne sont pas celles des adolescents non plus. Le dossier Entreprendre, parce qu'il faut quand même s'arrêter sur ce point. Tout ça, cette question de budget, il faut l'organiser hein, quand on s'apprête à changer de vie. J'en reviens à une de mes premières questions pour terminer, si vous le voulez bien, Denis Merci. Pilato. Je ne vous demande pas de dire du mal d'un de vos annonceurs, hein, c'est un tout nouveau magazine, mais j'ai regardé la pub en 4e de couverture du magazine. C'est une pub pour le TGV. Donc ça ne vous manque pas, vous ne refaites pas le chemin retour ?
Non, clairement non, même si le TGV c'est bien utile parce que ça met les campagnes proches des grands centres, pas forcément Paris, hein, mais des grandes villes, des grands centres de décision. Mais clairement, quand je monte dans le train, je me dis, je vérifie bien que j'ai un billet retour.
Bon, merci beaucoup Denis Pilato et bonne chance dans cette aventure de presse. Merci. Aussi, rédacteur en chef de ce nouveau magazine trimestriel qui s'appelle Néo-Ruraux. Ça coûte 5,90 €. Je voyais aussi dans les conseils, je le dis en passant, on descend d'un cran dans la densité. On passe de la grande ville à la ville moyenne, de la ville moyenne au village. Ce ne sont pas les habitants des Halles qui se retrouvent dans la Creuse d'un coup. Denis Pilato, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt, 7h51. Vous êtes sur Europe 1, très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, l'édito politique de Nicolas Bétou. Ce séisme à droite, les élections régionales et la région PACA en particulier. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h54 sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'annonce faite par Jean Castex au Journal du Dimanche hier et qui confirme une information que nous donnions la semaine dernière d'un accord entre La République En Marche et Renaud Muselier pour les élections régionales en PACA, eh bien cette annonce a provoqué un petit tremblement de terre.
Eh oui, parce que ce qui s'est passé hier restera certainement comme une date dans l'histoire de la recomposition de la politique française. L'acte premier de cette affaire avait évidemment été l'élection d'Emmanuel Macron il y a 4 ans, une candidature qui était née sur les ruines encore fumantes du Parti Socialiste et qui avait ensuite déstabilisé la droite avec, c'était l'acte 2, la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, stratégie confirmée ensuite avec le choix de Jean Castex, lui aussi issu de la droite. Voici donc l'acte 3. Dans l'une des plus grandes régions françaises, les candidats sous étiquette Macron vont, au nom de la lutte contre le Rassemblement national, se ranger derrière un des hommes forts de la droite, président sortant de ce territoire, et qui plus est, patron du parti Les Républicains dans les Bouches-du-Rhône. C'est du jamais vu.
Ça veut dire qu'il n'y aura donc pas de liste La République En Marche dans cette région.
Exact, ce qui est évidemment un échec pour Emmanuel Macron. Une fois de plus, il est obligé de constater que son parti n'existe pas, qu'il est incapable de se faire une place dans les territoires, incapable d'être à la manœuvre dans la recomposition politique. Il n'impulse rien. Il subit. Résultat, le parti présidentiel se dissout dans plus fort que lui. Et pourtant, à bien y regarder, cet échec est en même temps une vraie victoire politique.
Oui, en même temps. C'est très Macron, ça. Oui. Elle est où, la victoire?
Dans l'immense charivari qui s'est emparé de la droite. Christian Jacob, le patron des Républicains, avait donné la consigne. Aucun accord de premier tour avec le parti du président. Et on comprend pourquoi. Les Républicains passent leur temps à s'opposer à la politique du chef de l'État. Ils ne peuvent donc décemment pas s'allier aux élections. Bon, c'est raté. Renaud Muselier et plusieurs barons de la droite régionale ont pactisé avec l'Élysée. Terrible aveu d'impuissance pour la droite républicaine. Déjà profondément divisée sur sa ligne politique entre souverainistes, libéraux, populistes, rigoristes, la voilà écartelée sur la stratégie à tenir face à Emmanuel Macron. Et ce qui vient de se passer pèsera lourd dans un an.
Pour l'élection présidentielle?
Mais bien sûr, oui. On peut déjà être certain que la droite républicaine sera tiraillée entre trois attitudes. Soutenir Emmanuel Macron, parce que le président sortant aura mené sur bien des points une politique de droite avec des hommes et des femmes de droite. Deuxième option, soutenir le candidat que le parti Les Républicains désignera. Mais aujourd'hui, il n'y en a aucun. Xavier Bertrand, l'actuel favori, n'a pas sa carte du parti. Et puis, troisième option, voter Le Pen au deuxième ou même au premier tour. Et les sondages nous disent déjà en PACA que ce sera une réelle tentation. Voilà. On savait que la gauche resterait divisée face à la présidentielle, et donc n'avait aucune chance. On sait depuis hier que la droite, en étant divisée elle aussi, vient de perdre une manche déterminante.
Votre édito politique tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.
C'était l'édito politique avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteleu conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Même sujet, hein, Sonia Mabrouk reçoit aujourd'hui Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti qui a parlé de coups de poignard dans le dos. Et tiens, c'est Nelson Montfort qui est venu dire un mot à Éric Ciotti.
Oui, oui, tout à fait, mon cher Mathieu. Écoutez, j'ai goûté vraiment la chronique de Nicolas Bétou. Je vais me permettre de la traduire parce qu'elle était très claire, mais bien évidemment, et peut-être tout le monde n'a pas compris. Donc, en tant que commentateur sportif, permettez-moi une analyse de cette tactique. Je dirais que La République En Marche fait preuve là de lucidité en se retirant. Certes, on ne gagne pas, mais on évite l'humiliation de la branlée. Voilà. Si vous voulez une métaphore, c'est comme si Richard Gasquet disait cette année, je ne joue pas Roland Garros, je me mets derrière Raphaël Nadal et s'il rate une balle, je la rattrape. Voilà. Vous connaissez la maxime, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais à prendre une branlée, à coup sûr, on passe juste pour des cons. Voilà, à coup sûr aussi.
C'est vrai que c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci beaucoup.
Voilà, merci mon cher Nicolas.
Ouais, c'est un travail collectif, hein, cette matinale. Vous le savez, de toute façon, vous le savez. Vous qui écoutez Europe 1, Nicolas Canteleu vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse, à 8h15. Ce sera donc Éric Ciotti au micro de Sonia Mabrouk. Très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, alors le temps change, il bascule vers les côtes atlantiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que les perturbations maintenant vont venir de l'ouest et nous allons avoir des températures un peu plus douces, par exemple cet après-midi entre 16 et 20 degrés, c'est déjà bien, 18 dans la capitale, 18 à Lyon, 20 degrés à Marseille, 16 degrés à Rennes, à Nantes et à Strasbourg. Bon, ça c'est pour la journée d'aujourd'hui, les températures resteront relativement agréables dans le courant de la semaine, mais malheureusement, sur la moitié nord, ce sera quand même très pluvieux. Malheureusement ou heureusement, rigoureusement selon les cas. Bretagne, Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui les nuages seront de plus en plus nombreux, les pluies arriveront en fin de journée, la pluie va traverser une petite moitié nord dans le courant de la nuit, la région parisienne sera probablement touchée dans la nuit, sans bafouille. Champagne, Ardennes, Val-de-Loire, nous aurons un voile, comme sur Paris, en attendant la pluie, et sur les régions de la moitié sud, il fera beau. Le temps, non, je n'ai pas le temps trop de vous dire, les prévisions, allez, les prévisions à long terme. Pour le mois de mai, moyen entre le 13 jusqu'au 13 et 14 mai sera assez moyen. À partir du 14 mai jusqu'à la fin du mois de mai, nous aurons de nouveau de la chaleur qui commence à s'installer sur la France. Juin, chaud, parfois très chaud avec des orages. Juillet, chaud, parfois très chaud avec des orages, mais pas de canicule. C'est ce que dit Météo France dans les prévisions à 3 mois. J'en reparlerai parce qu'il y a quelques nuances à donner, notamment le nom de canicule revient dans cette prévision, mais la canicule, ça n'est pas le coup de chaud. C'est différent, et on en reparlera tout à l'heure.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer.